RMC Football Show, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Ils sont là, Jérôme Rotten, Daniel Riolo et les drôles de l'âme, David Lorto-Simone Rovera avec nous sur notre somptueux nouveau plateau, plus Julien Laurence et Fred Hermel à Londres et à Madrid. Juste avant de reprendre, oui, je parlais commission de discipline à l'instant. Je sais pas ce qu'ils avaient ce soir, les gars de la commission, là, mais
ils ont envoyé.
Ah, ouais. Kimpembe, 3 matchs de suspension. Donc situation rouge face à Lyon, normal pas normal, bon.
Bah, de toute façon, quand Marcus normal, Thuram pas normal, les mecs ils te répondent que c'est les barèmes.
Ouais. Donc, Marcus Thuram 4 matchs et Radji 5 matchs de suspension.
Bah 5 c'est normal ça, le barème il dit brutalité.
Voilà. Bon.
Et c'est quoi Thuram?
Thuram 4 matchs.
Ouais, non mais c'est quoi s'il avait fait, je me souviens plus Thuram.
C'est un coup de coude. Donc c'est brutalité aussi.
Voilà.
Mais moins fort, moins brutal. Ils ont estimé moins
après,
fort.
Après, il y a le casier du joueur aussi. Est-ce qu'il a déjà souvent été suspendu ou pas? Ça peut jouer. Bon, voilà. En tout cas, vous retrouvez tout ça sur
RMC Sport. Mais le mec qui fait un tacle, qui prend un carton rouge comme Kimpembe et que ça donne 3 matchs, enfin, je trouve que c'est beaucoup.
Alors, bah,
ils appliquent
oui,
la règle, les barèmes et tout. Mais en règle générale, le mec qui prend un carton rouge dans un match, que ça donne 3 au final, bon, voilà, il l'a pas blessé,
ce qui me choque, c'est
lourd quand même.
C'est le manque d'appréciation.
Trois matchs grâce à la VAR, hein.
Quand t'es sur un terrain, rappelle-toi du geste de Kimpembe quand même. Au départ, Kimpembe, mine de rien, il va pas pour lui fracasser le tibia. Mm. Il le fait parce que il est malheureux, c'est que Depay, tu regardes, il le pousse au dernier moment et c'est vrai qu'il est déséquilibré et son pied arrive sur le tibia.
Non, mais qu'il prenne rouge, c'est normal.
Eh. Il lui fait très mal, c'est normal.
C'est
qu'il
normal.
Prenne rouge et tout ça.
Mais quand même, trois matchs
pour un geste comme ça, que, à mon avis, quand tu parles avec Kimpembe, il y va pas juste pour lui attraper le tibia, quoi.
Enfin, c'est rare les mecs qui vont pour attraper un tibia. Ça n'existe pas.
René Girard,
si, c'est un chien. Si, ça existe sur un.
Bah, c'est quand même rare.
Pour te faire mal, un tac pour te faire mal, tu le sens tout de suite. Mais après, il faut avoir la sensation du terrain et ces mecs-là.
Je suis désolé.
Ouais.
Eric, si tu nous écoutes.
C'est quand même assez rare, quoi. Les mecs qui vont et qui.
Je crois qu'Eric, il avait quand même souvent le ballon quand tu regardes les best-of. Il avait souvent le ballon quand il taclait au fond.
Ah oui. Il avait souvent le tibia aussi.
Allez, on reprend notre tournée européenne. Donc, votre équipe, votre petite équipe, qui vous plaît? La petite équipe que vous regardez des fois, vous dites tiens, je vais regarder cet après-midi parce que je sais qu'ils jouent bien, puis je sais qu'il y a un truc qui me plaît bien chez eux.
Qui commence?
Simonet, tiens.
Bah, j'ai déjà parlé de Sassuolo et.
J'étais sûr que t'allais dire Sassuolo.
Ouais.
Bah non, comme il a déjà dit,
Sassuolo,
autre chose quand même.
Sassuolo et Sampdoria sont les deux, mais Sassuolo, je pense que c'est l'équipe qui, avec des arbitres sur les bancs, peut faire. La belle saison
arrivée en Europe. Troisième, après ils ont pris quoi, 2 ou 3 défaites de suite là.
Ouais, ils ont joué face au Milan,
ils
face
sont
à Napoli.
À leur place,
voilà, ils peuvent pas gagner tous les matchs face à le gros, mais ils ont perdu face à la Juve, à Milan et à Napoli cette saison. Donc c'est pas si simple. C'était pas si simple que ça le calendrier en ce moment.
Ouais.
Ça solo pour Simonet, David Lorto.
Alors il y a des styles très très différents, mais si on veut absolument une petite équipe, moi il y a une petite équipe qui à laquelle j'accorde beaucoup de tendresse, c'est le SC Fribourg, qui est la seule ville du sud-ouest de l'Allemagne proche de l'Alsace et de la Lorraine notamment.
Côté d'Europa Park.
Qui résiste
le plus beau
si
parc
on veut
d'attraction du monde.
Oui, absolument. Je suis d'accord.
Non,
qui résiste si on veut à la géographie du football allemand, qui est plutôt dans la Ruhr, qui est plutôt à Cologne, qui est plutôt en Bavière, qui est plutôt dans le nord aussi. Et à Fribourg, on fait bien. Je dis pas que c'est un jeu très flamboyant, c'est pas le Barça, mais on fait bien avec des moyens ou même des petits moyens. Et l'entraîneur,
c'est
évidemment,
une sorte de Dijon,
Christian Streich. Oui, ben Christian Streich, l'entraîneur, évidemment, n'est pas pour rien dans cette réussite. Fribourg devrait être chaque année un candidat à la descente. Or, c'est par le jeu, c'est par l'attitude, c'est par c'est par aussi quelques talents qui parviennent à se révéler, comme Nils Petersen, même s'il s'était révélé avant, que cette équipe survit chaque saison en Bundesliga. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa, et elle est sympa à regarder en plus chaque week-end.
On peut poser des questions sur sur autre, où il faut que tu finisses le tour de table des leurs.
On finit juste le tour de table si tu veux bien.
Vas-y.
Fredo, ta petite équipe.
Alors c'est pas une petite équipe, mais eux-mêmes se définissent comme la bendita minoria, la minorité bénie. C'est l'espagnol qui est quatrième ex aequo, qui a autant de points que le Real, qui est un club qui a fait construire il y a quelques années son nouveau stade en banlieue, qui est un petit bijou. Ils ont changé d'entraîneur, ils ont pris Rubi. Alors Rubi, il a été l'adjoint de Tito Villanova. Rubi, en fait, Rubi, c'est son surnom parce qu'il s'appelle Francesc. Je me souviens bien jamais son nom. Francesc, je sais plus quoi, Sicilia, un truc comme ça. Mais tout le monde l'appelle Rubi, quoi. Voilà, comme un Rubi. Et Rubi, il a été l'adjoint de Tito Villanova à Barcelone. Il a été un joueur de deuxième zone. Il a entraîné que des petits clubs. Et là, c'est la première fois où il a un gros club, parce que l'Espagnol, c'est, même si c'est par rapport au mastodonte barcelonais, il n'existe pas, mais c'est un club historique quand même en Espagne. Et là, c'est pas mal ce qu'ils font. Puis c'est un jeu plutôt technique, qui va plutôt vers l'avant. Vous avez des joueurs comme Darder, un ancien Lyonnais.
Ah,
vous avez un jeune comme Marc Roca. Il y a Granero qui avait été formé au Real, qui est très bon technicien aussi. Donc voilà, c'est une équipe qui aujourd'hui a le même nombre de points que le Real, 4e ex aequo, et qui est en train de se passer quelque chose entre lui et le.
Était capable de le faire jouer. Ça, c'est quand même
moi je trouve que c'est un joueur c'est un vrai joueur espagnol, quoi.
C'est un bon joueur,
technicien, ouais. Voilà, bon joueur. Ouais. Et c'est plutôt sympathique ce qui se passe. Et dans les buts, alors peut-être on parlera des gardiens tout à l'heure, parce que c'est un sujet que j'aimerais bien aborder. Mais dans les buts, il y a Diego Lopez. Vous vous souvenez de Diego Lopez qui avait poussé Casillas dehors, puisque il avait été le choix de Mourinho. Mmh. Bah, Diego Lopez est le gardien, l'excellent gardien de cet espagnol. Et puis un derby, le derby catalan, c'est un beau derby. C'est pas le plus beau. Le plus beau, c'est le Sevillan, mais il est plutôt sympathique. Donc, avoir un espagnol compétitif, c'est plutôt sympathique.
Julien, ta petite équipe à toi en Angleterre, c'est quoi?
Moi, je dirais Bournemouth, qui fait vraiment un super début de saison. Ils sont sixième. Ils jouent très bien au foot. C'est une équipe qui joue beaucoup, avec beaucoup de mouvements, qui joue avec le ballon au sol. Et ils ont un entraîneur, Eddie Howe, qui a 40 ans, qui est un jeune entraîneur très, très, très prometteur, dont on a, à mon avis, qu'on verra dans un très grand club bientôt, à la tête de l'équipe d'Angleterre un jour aussi. Ils ont de l'argent, mais tous les clubs anglais ont de l'argent, donc on peut pas se baser simplement juste sur l'aspect financier. Mais pour le reste, ils ont un petit stade avec qui est toujours plein. Ils ont des jeunes joueurs très intéressants comme David Brooks par exemple, qui sont allés chercher en deuxième division à Sheffield United, l'international gallois qui fait un très bon début de saison aussi. Et voilà, j'aime beaucoup. C'est un 4-4-2 traditionnel, mais ça joue très bien avec des latéraux qui montent. Ça joue bien au foot. Il y a beaucoup de mouvements et pour l'instant, ils font une très bon début de saison.
Daniel, ta question.
On va commencer par l'Allemagne. David est plongé dans son kicker.
Kicker, c'est hebdomadaire?
Bi-hebdomadaire.
Ah, d'accord, c'est une sorte de France Touffe.
C'est comme le France Touffe, ouais. Kicker.
Oui, c'est probablement.
Ah, c'est moins joli, hein. Je vois la mise en page, là, c'est un peu austère.
Qu'est-ce qui se passe avec le troisième de la dernière Bundesliga, qui est le prochain adversaire de l'OL en Ligue des Champions, Hoffenheim, qui est 13e?
Toi, tu regardes trop les classements, Daniel.
Hein?
Tu regardes trop les classements, trompe-l'œil.
Ah bon. C'est à toi de me le dire.
Si c'est
trompe l'œil, parce que c'est un point par match.
C'est bien d'évoquer ça.
Et moi, quand je les ai vus les deux fois en Ligue des Champions, je les ai trouvés plutôt pas mal. Contre City, ils peuvent, bon, même s'ils sont dominés quand même, hein, donc c'est pas volé non plus pour City, mais ils peuvent néanmoins arracher le match nul. Bon, Nagelsmann, c'est l'entraîneur dont tout le monde parle.
Oui.
Et quand je les vois à cette position au classement, j'ai envie de savoir ce qui se passe.
Oui, alors c'est j'ai la conviction que c'est vraiment un classement en trompe-l'œil. Il y a eu effectivement, et notamment encore ce week-end.
Tout le monde dit qu'ils vont remonter, il n'y a rien.
Je dis pas qu'ils vont remonter, je dis simplement que des fois tu perds un match 3-2 ou 4-3, c'est assez fréquent en Allemagne. Tu as fait une belle prestation, simplement l'équipe en face a eu un peu plus de chance, ou a été meilleure, ou a eu un buteur qui a su mettre le pied au bon endroit au bon moment. Et c'est un peu ce qui arrive à Hoffenheim cette saison. Alors évidemment, sur 34 journées, s'ils sont 13e à l'arrivée,
ça se produit tous les week-ends, voilà. Le scénar dont tu parles là.
Mais ce scénar-là, ça a été le cas ce week-end, ça a été le cas déjà plusieurs fois, et aussi contre Manchester City en Ligue des Champions, parce que le 2-1 de Manchester, certes, les Mancuniens avaient largement dominé ce match-là, mais tu peux te retrouver aussi à un partout à l'arrivée. Les défaites d'Offenheim sont des courtes défaites, et alors, la difficulté est là où mes compétences s'arrêtent.
Ils sont toujours de toute façon très durs à battre.
Voilà,
ça, okay.
Exactement. Donc, et c'est pareil, c'est dans l'autre sens, quand ils gagnent, c'est toujours aussi un peu 1-0, 2-1, etc. La difficulté qu'il y a Offenheim cette saison, et là où on est dans un no man's land, enfin je veux dire on sait pas où on va, la terra incognita, c'est que ils n'ont jamais eu à gérer à la fois une campagne de Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, et le championnat, parce que évidemment avec cette équipe-là, avec cet effectif-là, avec cet entraîneur qui découvre le football de très haut niveau,
tu
n'as que le championnat à gérer, tout va bien. Là, il y a la Ligue des Champions aussi, avec l'espoir de terminer au moins troisième dans le groupe de City et de Lyon, au moins troisième, donc de poursuivre l'aventure, avec un effectif assez réduit. Après, on pourrait faire le tour, il y a des très bons joueurs dans cette équipe, c'est une équipe hargneuse, et je suis convaincu qu'elle continuera d'être dur à battre jusqu'au mois de mai.
Et qu'il y a emmerdé Lyon.
Tes bons joueurs.
Ah oui, emmerdé Lyon.
C'est qui tes bons joueurs?
Ils sont un peu partout, alors. Vas-y. Ça va te faire rire.
Non, mais je les ai commentés, c'est pour ça que j'attends.
Jérôme, parce que les deux meilleurs sont partis, hein. Gnabry et Hoot. Ouais. Les deux attaquants principaux sont partis.
Donc ceux-là, ils sont plus là.
Mais, tu as dans cette équipe un excellent gardien. Oliver Baumann, qui est un bon gardien de Bundesliga. Allez, on pourrait comparer avec qui, avec Borelli, avec Claude Barrabé, avec Jean-Luc Etori.
T'as
allé
chercher loin là. Mais
Claude Barrabé, quand t'as des références, t'as des références
parce que,
modernes.
Parce que ce sont des gardiens. Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est parce que ce sont des gardiens qui n'ont pas forcément été dans le top niveau européen, etc. Mais qui font quand même de belles prestations chaque week-end. Reste à savoir.
Tu crois pas qu'ils ont perdu lourd à l'intersaison
Non. Reste à savoir si après tu peux franchir le cap pour être bon en Coupe d'Europe et aller loin en Coupe d'Europe. Ça, j'en sais rien.
C'est toujours machin.
Voilà, tu fais pas très peur aux Lyonnais quand même. Hein.
Ah oui, mais.
Bah, je sais pas s'il fait peur aux Lyonnais, mais si les Lyonnais doivent prendre Hoffenheim, il suffit juste qu'ils regardent les deux matchs de Ligue des Champions.
Le meilleur joueur, c'est Kevin Fogt.
Ouais,
défenseur central, c'est pas mal.
Demirbaï.
Alors toi, évidemment, tu as des artistes désestimés. Il revient d'une absence, et on l'a vu dans son dernier match.
Moi, je l'avais vu à la Coupe des Confédérations, déjà avec l'Allemagne, et c'est vrai que c'est vraiment le seul dépositaire du jeu, il est là.
Voilà, lui peut
offensivement, c'est lui qui te fait le lien entre le milieu et l'attaque.
La clé du jeu, c'est l'autre de derrière. Enfin, ils sont deux, quoi.
Lui, effectivement, s'il retrouve, et là, il avait un bon niveau. Je pense que c'est un des derniers matchs que tu as commenté.
Contre City, il a montré belles choses. Et puis l'activité de Belfodil aussi devant. Moi, je vois vraiment ces deux points forts là. Mais c'est peu pour espérer, ne serait-ce que finir troisième en Ligue des Champions, quoi. Tu vois.
Pour moi, c'est
City, il était pas là, Kevin Vogt, le capitaine.
Ouais, exact. Pour moi, c'est une équipe qui
a eu des blessés. Il sera là contre Lyon, parce que lui, il a été blessé. Ça a été une perte.
Pour résumer, pour faire la synthèse, de mon point de vue, on verra, je me trompe peut-être, c'est une équipe qui est au niveau de Lyon aujourd'hui.
Ah ouais.
Allez, on passe à la suite. Benjamin est avec nous au 32-16. Benjamin, bonsoir.
Et on a passé Kramaric aussi.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir à tous.
Alors toi, tu voulais parler d'Arsenal, Benjamin.
Moi, je voulais parler d'Arsenal, ouais. J'ai entendu beaucoup de choses sur le début de saison d'Arsenal en disant que c'était convaincant, que c'est une très belle série. Alors moi, je suis très surpris parce que par la série d'Arsenal, là, il reste sur 10 victoires consécutives. C'était pas arrivé depuis 2014. Donc c'est très beau, les résultats sont là. Le problème, c'est que Arsenal, ça joue très très mal depuis le début de la saison. Moi, je suis pas du tout convaincu par le jeu qu'Emery propose, même si je sais que c'est le début et que ça va venir. À part la seconde mi-temps contre Fulham qui a été excellente et 20 minutes contre Chelsea, c'est une victoire à l'arraché tout le temps avec un Lacazette qui fait un début de saison exceptionnel et donc qui permet, qui relève un peu le niveau de tous les autres, le niveau des autres joueurs. Qui reste un peu moyen. Ouais,
victoire à l'arraché, je regarde les résultats depuis le 18 août où ils perdent contre Chelsea. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient être à l'arraché comme ça quand même. Hein.
Ouais, non, mais c'est-à-dire que contre Everton, c'est deux buts, sont deux buts, deux beaux buts, donc c'est victoire 2-0. Mais Everton rate une quantité d'occasions vraiment importante. Contre Watford, c'est pareil. Donc il y a des victoires assez étriquées. Contre Newcastle, c'est un coup franc de 40 mètres de Xhaka qui débloque la situation. Donc c'est une très très belle série, mais moi je suis pas convaincu que Arsenal va finir en top 4, même si
est-ce que c'était l'ambition du club, sachant les armadas que t'as en face?
Réponse de Julien.
Ouais, finir dans le top 4 et se qualifier pour retrouver la Ligue des Champions, c'est sûr que c'est une priorité. Après, ils ont toujours, depuis le départ, avec Emery, de reconstruire quelque chose, donc de lui laisser un petit peu de temps. Donc si c'était finir cinquième cette saison, par exemple, ce serait pas non plus une catastrophe et je pense qu'il lui laisserait encore un peu de temps. Mais effectivement, si tu peux finir dans les quatre premiers, tu finiras. Après, je suis d'accord avec toi, ce que tu dis sur le début de saison d'Arsenal. Effectivement, dans le contenu, il y a eu des très bonnes choses par moment, mais effectivement, sur la continuité, dans la constance, c'est un peu plus compliqué. Ils concèdent beaucoup d'occasions, mais ça, on le savait depuis le début qu'ils vont concéder des buts et ils vont concéder des occasions, quoi qu'il arrive. À chaque match, contre Cardiff, ils prennent deux buts à l'extérieur, alors que Cardiff, c'est quand même des pipes. Contre Everton, effectivement, contre West Ham, tu gagnes 3-1, mais tu concèdes beaucoup d'occasions. Si West Ham y met 3 buts, il n'y a pas photo non plus, mais toi aussi, t'aurais pu en mettre 4 ou 5. Donc voilà, je pense que ça s'équilibre, mais c'est vrai que défensivement, il y a encore beaucoup de travail à faire, et offensivement, par rapport à ce qu'Emery veut, il y a aussi encore beaucoup de travail, mais je trouve que là où t'es un tout petit peu négatif, c'est que t'aies gagné 9 fois d'affilée, même si c'était pas génial, c'est quand même vachement positif pour la confiance, pour ta dynamique d'équipe, et même au classement, tu te retrouves qu'à 2 points des leaders, sans vraiment bien jouer,
Il n'y a pas que ça, Julien. C'est que effectivement t'es 4-2 points des leaders, mais c'est surtout que pour finir dans le top 4, ce qui serait peut-être inattendu par rapport aux dernières saisons, il faut regarder la concurrence. Et t'es à t'as mis 5 points déjà à Manchester United. Et Manchester United propose rien de mieux qu'Arsenal.
Et la seule différence, c'est qu'en termes d'effectifs, Manchester United est bien plus élevé et a des meilleurs joueurs qu'Arsenal.
Peut-être, mais vu comment se goupille leur saison pour l'instant, après ça veut pas dire qu'ils vont pas se redresser, mais pour l'instant ça se goupille moyennement. Et puis au niveau du jeu proposé, Manchester United c'est quand même c'est en dessous d'Arsenal. Et après t'as Tottenham qui malgré toutes les critiques se retrouve quand même à 18 points. Donc juste derrière son vieux rival, mais c'est pas non plus extraordinaire Tottenham depuis le début de la saison, Julien, non?
Non, ouais, c'est pareil, c'est un peu décevant dans le jeu.
Au final, Arsenal vole la place de personne en étant 4.
Non, mais Arsenal est valorisé par rapport à son parcours, surtout du moins
ils ont profité.
Pour l'instant, là, et tu gagnes sur les 8 victoires de suite, t'as 5 matchs à domicile, t'as des matchs à l'extérieur, ils ont quand même joué à Cardiff qui est l'équipe la plus faible de Premier League. Ils gagnent là à Fulham qui est pas loin d'être aussi une des défenses les plus faibles du championnat. Donc oui, ils s'en sortent bien. Et de toute façon, tu peux pas espérer, même en Angleterre ou dans n'importe quel championnat, quand t'as un milieu de terrain comme ils ont, avec aussi peu de choix, avec des joueurs moyens, je suis désolé, mais bon, Guendouzi, c'est un jeune joueur, à lui de montrer et d'arriver au niveau des meilleurs, mais il y en est encore loin. Chaka, il y arrivera jamais. Voilà, donc
Torreira, c'est fort, je pense.
Torreira, mais il joue pas tous les matchs, Torreira.
Allez, on passe à la suite. Et là, il faut attendre le 3 novembre pour pouvoir jouer l'Italie contre Liverpool, ce qui sera leur gros match depuis les deux du début de saison, quoi.
Exactement, ouais. Et après ils enchaîneront en revanche Tottenham et Manchester United.
C'est la première semaine de décembre.
Ouais.
C'est là qu'il y aura le véritable premier test. À la limite, les deux premiers de la saison, tu dis les débuts de saison, tu trouves toujours un milliard d'excuses. Là contre Liverpool, ça va être une sorte de match un peu référence.
Ouais, tout à fait.
Victor nous demande sur le hashtag RMCLF, c'est pour toi Simonet. Dis-nous ce qui se passe à la Fiorentina. Ça marche bien et notamment Alban Lafont. Il paraît qu'on l'annonce déjà, dit Victor, dans des grands clubs.
Alors, il avait très très bien commencé la saison. Là, sur le dernier match, ce n'est pas irréprochable sur cette victoire de la Lazio face à la Fiorentina. Sur le but d'Immobile, c'est pas extraordinaire. Globalement, il est bon, Lafont. Hein, c'est presque une surprise. Je parlais avec des gens très proches de la Fiorentina qui m'ont dit qu'ils s'attendaient pas à voir un joueur déjà si près. Il est pas toujours extraordinaire, il a fait même lui des erreurs, mais quand même globalement il laisse une très très bonne impression. Après lui, il faut le voir aussi dans les contextes de la Fiorentina, qui est en ces moments l'équipe dans les 5 plus grands championnats qui a la moyenne d'âge plus jeune, moins de 24 ans, 23, quelque chose
d'âge. Il y avait deux mecs qui étaient titulaires ce soir, hein, dans le Italie.
Biraghi et Chiesa.
Ouais.
Mais au-delà de ces joueurs, bon, italiennes, il y a quand même
Veretout, il se démerde bien. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé ce joueur. Il est bien, Veretout.
C'était déjà une belle surprise la saison dernière. Il continue sur sa lancée comme homme d'ordre au milieu de terrain. Mais après, il y a bon, Simeone, on commence à déjà les connaître. Piazza, les Croates qui arrivaient après avec option d'achat de la Juve qui commence à être
Piazza,
plutôt important.
Toi, c'est pas Piazza. C'est pas Marco Piazza.
Piazza. En italien, on l'appelle Piazza. Marco Piazza.
C'est un A et ça fait ça, alors.
C'est un
ICD. C'est
CD. Comment dire.
Bref. Ah, c'est il y a le petit machin.
Ouais, j'ai l'impression. Au moins.
Ah bon.
On l'a toujours appelé Piazza en Italie.
Ah ouais.
Et encore d'autres jeunes au milieu de terrain. Donc globalement la Fiorentina c'est un projet très intéressant. C'est pas si simple avec toute cette jeunesse d'avoir en confirmation des résultats, surtout face aux gros, on peut dire. Mais c'est sûrement une des équipes les plus suivies avec intérêt. Quand tu parles des grands clubs, il n'y a pas que Lafont qui est suivi par les grands clubs, même si c'est vrai que c'est déjà suivi. Chiesa, Simeone sont tous vraiment recherchés et pour
conséquence les Français ils sont pas loin même, du top 5, hein, ils sont à un point, deux points.
Même Eric commence à avoir un peu plus de continuité, donc
ah oui, c'est vrai qu'il y a plein de Français là-bas.
C'est
Brian
pas mal.
Dabo et
Brian Dabo, il est un peu sorti de la rotation.
Peine, ouais.
C'est vrai que au milieu de terrain cette année la Fiorentina a un peu changé les choses, mais ça reste une très belle équipe. Et à mon avis Lafont va progresser sur la saison. C'est pas cette saison qui va la confirmer au plus haut niveau, mais dans un de saisons il va être sûrement appétible même pour l'équipe de France, je pense.
Attention messieurs, hein, dames, Fred Hermel. Oui Jérôme.
Hein, qui ça? T'as mal fini, t'avais bien commencé là.
Je pense
il est déjà appétible, c'est un nez. Si ça veut dire sur sa lancée, appétissant, voilà.
Appétissant, oui, ça a
pour. Ouais, parce qu'appétit, t'as fait, en espagnol, c'est la même chose, t'inquiète pas, moi j'ai compris.
Et quand t'es barré.
Non, mais il parlait du joueur, j'ai entendu parler du joueur lui-même, pas du mot, en fait.
Dans 2-3 ans, la fond,
dans 5-6 ans, peut-être pas.
Bah, comme troisième gardien, c'est pas impossible.
Avant de te prononcer, tu demandes l'autorisation.
Ah, parce que si je parle de l'équipe des France, il fallait.
Tu demandes autorisation.
Je t'envoie des
sauts. Tu vas comme ça, genre, Alban Lafont, il va aller chez les Bleus, mais ça va pas ou quoi?
Ça se passe pas comme ça.
J'ai oublié que j'ai déjà marché les Bleus.
Mais ça se passe pas comme ça.
Hop, il envoie Alban Lafont et chez les Bleus.
Mais ça va pas, toi.
Je suis désolé.
Et toi, ton Pavard, t'as intérêt à ce qu'il se reprenne.
C'est bien ce que je
dis. Il va pas rester longtemps.
Mon petit Fredo.
Qu'est-ce je parlais comme ça, des Kondogbia.
J'ai deux questions sur Direct Studio.
C'est ma faute.
Eh oui, c'est vrai.
Oh, mon
Dieu. Il
l'avait envoyé en équipe de France, maintenant il joue Centrafrique.
Ouais. Oh, c'est une ancienne colonie.
Ça fait bien la preuve qu'équipe de France.
Non, mais voilà. J'avais oublié qu'il y avait un face.
Fredo, voilà. Deux questions concernant le jeune coach de Séville, Pablo, en espagnol machine, mais en français machin.
Machin, oui.
Voilà, Pablo Machin. Parle-nous de ce gars qui était.
Ça veut rien dire là-bas quand on appelle quelqu'un machin. Eh, machin.
Non, ça veut rien dire, non.
comment tu le dis en espagnol?
Et on dit pas.
T'appelles pas quand t'appelles un type machin quand
tu dis. On dit, oye, tio, c'est oncle, mais ça veut dire mec. Oh, tio, c'est mec.
Ouais.
Tu vois, c'est un oncle, l'oncle, ça se dit le tio. Pero el tio.
Je sais qu'on dit ça en espagnol, mais je pensais qu'il y avait un truc encore.
Oye, tio. Oye, tia. C'est bon, bah, voilà.
C'est même en Italie, zio.
Non, mais non.
Tu vois, on dit pareil quand on interpelle.
Ouais. Oui. Mais on utilise aussi les tio, zio en Italie comme.
Bon, donc je reviens à mon Pablo Machin.
Pablo Machin.
Qui donc a un style stratégique, enfin un style tactique très établi, défense à 5, enfin bref, et ça.
Enfin, c'est 3-5-2, enfin.
Ça a marché à Gérone et ça marche à Séville.
Ouais, on l'a déjà évoqué lundi dans l'after, mais il y a beaucoup de questions sur Twitter sur ce coach parce que Séville, quand même, c'est le leader de la Liga Espagnola. Eh ben oui, au bout de 8 journées, ça veut quand même dire quelque chose. C'est une équipe qui est belle à avoir joué. C'est une équipe qui est tournée vers l'avant. C'est une équipe qui a, on le sait, a perdu son maestro, hein, Monchi, qui est à la Roma, son directeur sportif. Eh ben. Quand même, Machin, c'est quelqu'un qui l'an dernier avait pris Gérone, qui était pour la première fois de son histoire en première division, et qui avait réussi des beaucoup. Par exemple, battre le Real de Zidane. Et ben là, ils ont battu le Real 3-0 il y a 15 jours, 3 semaines. C'est-à-dire que Machin, c'est un grand tacticien qui sait embourber les adversaires. Voilà. C'est-à-dire que par exemple Lopetegui a dû changer son système l'autre jour en deuxième période parce que il n'arrivait pas à réagir. Le Real était comme un embourbé par la tactique de Machin. Alors moi je suis pas très tactique, etc. parce que je trouve que le football va au-delà de ça. Mais s'il y a bien un coach en Espagne qui excelle de par son approche tactique des matchs, eh ben c'est Pablo Machin. Voilà, ça n'a pas été un grand joueur.
Il a quasi la même équipe, non?
Ouais, parce qu'il y a toujours Muriel qui l'a un peu carté. T'as toujours Ben Yedder. Il y a l'arrivée d'André Silva qui est pas mal. T'as toujours Banega qui est un joueur extraordinaire. Voilà, tu as toujours Jesús Navas qui va s'en jouer, etc. Voilà, ils ont un nouveau gardien, un Tchèque, Thomas, qui est arrivé cet été. Voilà, Thomas Vaquet, qu'on appelle Thomas ici parce que c'est plus facile.
Mais il est venu seul ou pas, ce gars-là?
Il est pas mal, hein. Il est bon, c'est un bon gardien.
Il est venu seul ou pas, Séville?
C'est quoi la blague?
Non, je sais pas, il a pu venir avec toute sa clique.
Il y a peut-être le machine allemand aussi, non?
Si on cherche bien. Elle vient de loin, celle-là. Thomas Vaquet. Enfin, en tout cas, belle équipe que Séville. Et puis un coach. Alors, je sais pas si ça va durer longtemps, mais vu que tout le monde perd contre tout le monde et que tout le monde perd des points, eh ben peut-être que Séville, qui ne joue pas la Ligue des Champions, qui ne joue que la Ligue Europa, pourrait tirer son épingle du jeu. En tout cas, Machin, la greffe prend.
Et on parle du scandale, du fait que Gonalon soit pas titulaire. Non, je déconne.
J'ai une question qui vous concerne tous les quatre. Une question de Rome 1 qui lui dit « Lequel d'entre vous paye le moins d'impôts ?»
C'est certain. Non, j'allais dire une bêtise. C'est certainement pas moi, mais j'en sais rien en fait.
Là où on paye le moins d'impôts dans quel pays tu veux dire ?
C'est certainement pas moi.
Ça doit être Angleterre, j'imagine.
Ça doit être en Angleterre, non ?
Ouais. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est sur les footballeurs.
Sur les footballeurs. En règle générale, dans quel pays ?
Non, mais lui, il voulait savoir pour les drôles de l'âme.
Ah, pour eux.
Ah, d'accord, pour les drôles de l'âme.
Pour eux, c'est Fred.
Moi, je te rassure, je n'ai pas été conseillé par les mêmes conseillers que Cristiano Ronaldo, c'est tout ce que je veux dire. Je préfère pas d'ailleurs. Non mais c'est une question intéressante. Non mais
Cristiano Ronaldo.
Non, c'est une question très intéressante parce que moi ça me fait marrer quand on essaie de comparer les championnats parce qu'il faudrait pour que ce soit juste qu'il y ait une vraie harmonisation fiscale qui n'existe pas en Europe. Parce que mon petit Simonet.
Ah bah tu parles comme Bernard Cagliazzo.
Oh là là. Bah oui, bah pourquoi Ronaldo il part en Italie? C'est aussi parce qu'il y a un dumping fiscal énorme sur les très très gros salaires des footballeurs, on est d'accord?
Bah toi, t'as eu la loi Beckham pendant des années.
Ouais, mais sauf qu'elle marche plus aujourd'hui.
L'Espagne a fait ça pendant des années. C'est pas ce qu'on faisait pour les joueurs étrangers en plus.
Je vais t'expliquer l'histoire. Non, la loi Beckham existe encore. La loi Beckham en fait avait été créée. La loi Beckham avait été créée non pas pour les footballeurs, mais parce que c'était pour attirer les cadres des grandes entreprises.
Wow.
Et attends, laisse-moi terminer. Et en fait, les footballeurs, c'était l'année de Beckham, en profitaient. C'est pour ça qu'on appelait ça la loi Beckham.
Ouais, mais
il se trouve qu'aujourd'hui, la loi est toujours en vigueur, sauf qu'elle n'est plus applicable pour les footballeurs. Voilà. Ouais, parce que et les footballeurs, seulement je peux dire qu'ils se prennent. Ils se prennent tous des gros redressements.
Bah, l'affaire Cristiano, ça n'a pas été qu'un transfert de foot. Non. Ils ont foutu ça sur les sociétés,
bien sûr,
Fiat et compagnie.
C'est pas sur les salaires, sur les revenus.
Les droits d'image.
Chaque revenu qui n'est pas gagné dans les pays en question, c'est-à-dire tous les contrats qu'il a avec, à l'étranger, donc c'est pas les rapports de travail avec l'Italie, mais c'est tous les autres contrats dans les mondes qui sont imposés avec une cote fixe.
3-4 sociétés étrangères, c'est réglé. Hein.
Messieurs, cette foire aux questions était bien sympa. Ça change un peu. Hein,
c'est déjà fini.
Ah ouais, c'est fini. Maintenant, on peut pas poser des questions.
Vous voulez faire une petite devinette, Gilbert? Petite devinette. Sais-tu dans quel club allemand le fils de Klinsmann et le fils de Köpke jouent?
Enfin, les deux ensemble.
Ouais. Oh. Le fils de Klinsmann, Gartenbuch.
Nuremberg.
Le fils de Köpke, Pascal Köpke. Rostock. C'est Hertha Berlin. Alors, ils n'ont pas encore l'occasion de jouer beaucoup parce qu'ils
tombent pas mal, le Hertha Berlin cette année.
Ils tombent très très bien, ouais.
Très bien. Bon, restez encore un peu et je vous donnerai les infos Monaco également dans quelques instants. Bougez pas, les drôles de dames reviennent tout de suite.
RMC, Football Show, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
L'After est là jusqu'à minuit, Saint-Etienne au programme dans quelques instants, équipe type, équipe pipe, bien sûr, ensemble on va décider, on va élire l'équipe type de Saint-Etienne avec vous au 32-16 tout à l'heure. Les drôles de l'âme toujours là, Daniel Riolo, Jérôme Rotten. Juste avant de finir avec vous les gars, les infos monégasques du jour, vous dire que Jardim était ce matin tout de même à l'entraînement, a priori sa dernière séance d'entraînement. Alors il a même pas dit au revoir aux joueurs, il a rien dit, il a été très discret et sobre, donc
un petit Eddie Mitchell ou pas?
Bah non, apparemment pas.
La dernière séance, ouais, c'est ça.
C'est ça. Alors, on sait qu'il partira avec tout son staff. Donc, hop, tout le monde dans la charrette. Henri, bon, bah, c'est toujours dans les tuyaux, sauf qu'Henri, il veut quand même faire le dernier match de la Belgique, là. Il y a un match de la Belgique qui arrive ce week-end, donc il veut être là.
Bon, il peut arriver après.
Il veut pas planter la Belgique, donc on s'acheminerait vers une présentation pendant le week-end. Henri, qui veut recruter au Mercato, voilà. Alors, il y a Monaco, il y a un truc qui joue quand même. C'est que, l'une des dernières conférences de Jardim a réuni 10 journalistes. Et là, au club, ça a interpellé. On s'est dit quand même, il n'y a pas longtemps, on a fait une demi-finale de Ligue des Champions. Et nous, Monaco, grand club français, peut-être qu'on n'intéresse plus grand monde. Donc, l'idée de Thierry Henry participe aussi de ça, de redonner une aura au club. C'est ce qui se dit autour de la SM.
De toute façon, moi, je sais pas, à chaque fois, vous le prenez mal. Monaco est un grand club de l'histoire du football français, oui. Mais Monaco intéresse pas grand monde. C'est juste une réalité. C'est juste une réalité. Bah, on n'y peut rien. C'est comme ça. Bon,
Monaco intéresse parce qu'il y a des parcours en Coupe d'Europe.
Oui, parce que là, ça provoque.
Il y a des belles équipes.
Mais où tu
l'épopée
derrière.
De Giroud en 2004, tout le monde était là.
Oui, évidemment, tu suis comme celle d'il y a deux ans.
Ouais.
Mais au final, ça intéresse pas grand monde, Monaco. Le destin de ce que peut devenir Monaco et tout. Tu demandes à un supporter de l'OM, de Lyon, de Saint-Étienne, de Paris. Ils s'en foutent, quoi. Alors que le supporter du PSG, il va quand même savoir ce que fait le mec de l'OM, de Lyon, enfin il y a un truc. Monaco, ça laisse, après, ça ne retire en rien le fait que ce soit un club qui ait marqué l'histoire du football français, important, des épopées, des super grands joueurs, mais ça intéresse pas grand monde, même très très peu, quoi.
Donc Thierry Henry à venir, officialisation sans doute pendant le week-end.
Que ça puisse jouer pour l'intérêt tout de même, d'avoir un mec comme ça, oui, évidemment.
Alors, il y a pas mal de questions qui arrivent sur, en gros, cette fois pas les clubs, mais les joueurs. Nouveau tour de table pour conclure, les gars. Je vous propose à chacun de nous donner le nom d'un joueur que vous ne citez quasiment jamais dans l'after et qui pourtant mérite d'être suivi.
Moi, j'en ai un qu'on a encore jamais cité, mais si ça continue comme ça, il va falloir vite en parler. Ah. C'est l'ancien meneur de jeu, capitaine de l'Ajax, David Klaassen, le néerlandais de l'Ajax, ancien de l'Ajax et ancien d'Everton. Il est venu au Werder pour 13,5 millions d'euros. Record, 13,5 millions d'euros, messieurs, hein. Rien du tout, donc. Record d'investissement de la part du Werder, et c'est une grande réussite, puisque c'est lui qui est en train, parmi d'autres.
Mais il est bon, ce joueur, il est arrivé quand?
De tirer l'équipe vers le haut. Bah, il est arrivé cet été, et il est en train de...
Klaassen, il était
Oui. Ouais. Ancien capitaine de l'Ajax.
Dans un vrai championnat, c'est lui qui avançait pas et qui était... Ah. T'es incapable de faire quoi que ce soit, quoi.
Bah là, en tout cas.
Et bam!
J'rigole.
Factuel, là, le Werder est dans les trois premières places.
C'est un joueur de ballon, quand même.
En
Angleterre, il arrive, mais c'était pas Everton qui était aussi, quand même pas le cadre parfait pour qu'il s'épanouisse.
Ouais, non, c'était ça. Non, je plaisantais. C'est vrai que ça allait un peu vite pour lui, parfois.
C'est qui son entraîneur à Everton? Tu te souviens?
Bah, c'est ça le problème, c'est qu'il a changé d'entraîneur. L'entraîneur qu'il a recruté, donc, qui était Koeman, effectivement, s'est fait virer assez tôt. Et après
Klaassen, très bien. Il faut qu'on continue parce qu'il nous reste 2 minutes. Simon, est un joueur?
Oui, je vais dire Grégoire Defrel de la Sampdoria.
Cinq
buts en ses débuts de saison. Et les compléments parfaits, je pense, pour Qualiaré là, qui continue à être l'attaquant qui fait les beaux et les mauvais temps.
Il a 45 ans, Qualiaré, là, maintenant.
37, je pense. Là, tu me posais une question. Mais c'est un complément parfait. Et si la saison de la Sampdoria peut être en réussite, c'est aussi pour le but de cet attaquant qui avait vraiment fait très très mal à la Roma. Il n'arrivait pas à s'imposer. Et là, il reprend sur une équipe plus petite, okay, un peu comme Sassuolo, et donc Defrel, c'est l'attaquant à suivre.
Fredo.
Ah ben, du côté de Barcelone, on se souvient d'un certain joueur qui s'appelait Xavi Hernandez, qui manque énormément, hein. Il a été le symbole de la grande Espagne, du grand Barça, du Barça des 6 titres avec Guardiola. Puis il y a eu le départ de Iniesta aussi. Donc voilà, c'est des joueurs qu'on rêve de retrouver, le nouvel Iniesta et le nouveau Xavi. Ah. Et ben, il y a Arthur Melo, 22 ans, hein, qui est arrivé du Grêmio, qui avait été acheté il y a un moment déjà par le Barça, mais qui était resté au Brésil. Il vient de jouer les deux matchs au milieu de terrain, les deux matchs à Tottenham, enfin à Wembley contre Tottenham, ce week-end à dimanche soir à Valence. Bah voilà, on se prend à rêver qu'Arthur soit le nouveau Xavi Hernandez. Alors on s'excite un petit peu, mais quand on a eu un joueur si important pendant des années, dès qu'il y en a un qui lui ressemble un petit peu, bah on a le droit de se projeter un petit peu. Très intéressant, et puis pour les Français aussi, parce que bah c'est soit Arthur, soit Dembélé. Et les deux derniers matchs, c'était pas Dembélé, c'était Arthur milieu de terrain.
Julien, ton joueur?
Moi, je choisirais Ruben Neves à Wolverhampton. Wolverhampton qui fait un très bon début de saison, ils sont 7e du classement, et Neves à 21 ans, le milieu de terrain portugais qui est un joueur exceptionnel, qui a sûrement rien à faire à Wolverhampton, qui était avec eux en Championship l'année dernière parce que Jorge Mendes est son agent, et que Jorge Mendes est carrément le directeur sportif de Wolverhampton. Mais voilà, si on va au-delà de ça, c'est un joueur formidable.
Tout même.
Voilà, tout, c'est ça, effectivement, c'est l'entraîneur, le président, tout, mais c'est le club de Jorge Mendes, un des autres clubs de Jorge Mendes, mais au-delà de ça, Ruben Neves, c'est un super joueur de foot, et pour l'instant, il est très très bon cette saison, et il restera pas longtemps à Wolverhampton, non.
Merci les gars.
C'était un plaisir.
Bah, de toute façon, succès pour la sélection nationale. Dans quelques instants, Saint-Étienne au programme. Non, c'est Daniel, il a une petite toux, hein, Fred, mais t'inquiète pas, il va se remettre.
Grosse toux.
Pas d'inquiétude.
Je suis pas bien.
Oui, non, du sirop. Dans quelques instants, Saint-Étienne, l'équipe type de Saint-Étienne, l'équipe type de Saint-Étienne, et une surprise à venir dans l'after tout de suite.
RMC Football Show, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, nous sommes là, messieurs, dames. Jérôme Rotten, Daniel Riolo, évidemment. Et après Paris, après Caen, après Monaco. On a fait quoi encore? Bordeaux, hier soir.
Bordeaux, hier soir. Hein.
Et avant d'autres, hein, avant tous les autres, parce qu'on va tous les faire. Enfin, tous les clubs représentatifs du football français, voire même européen. On peut élargir, parce qu'on me l'a demandé.
C'est bien européen, parce que forcément, Dijon, il y aura rien à faire, hein, sauf leur respect.
Ouais, bah moi j'ai déjà reçu des équipes de Dijon, je te signale. Aujourd'hui même, j'ai un supporter de Dijon qui m'a envoyé son équipe de rêve de Dijon.
Ils connaissent pas les joueurs, donc c'est compliqué.
Bah, les Dijonais, quoi.
Ouais.
Bon. Ouais. Écoute, on l'a fait quand? À partir du moment où tu fais quand, tu peux faire Dijon.
Quand non même. Ouais.
Jérôme?
Caen l'a fait.
On va pas comparer l'histoire de Caen avec l'histoire de Dijon quand même.
En tout cas, ce soir, c'est Saint-Etienne. Et là, il y a du lourd, messieurs dames. Alors évidemment, le hashtag équipe type et le hashtag équipe pipe vive.
L'équipe la plus simple à faire de toutes.
Équipe type la plus simple à faire
pour
de toutes.
Pour moi, c'est l'équipe type la plus simple à faire à Saint-Etienne.
C'est vrai.
Bah, c'est tellement évident que.
Alors, dans quelques instants, je vais vous livrer celle des internautes, d'équipe type de la Saint-Etienne. Mais tiens, pour une fois, je vais démarrer par l'équipe pipe des internautes, si vous le voulez bien. Voilà, on m'a mis dans les buts Debec, ancien gardien stéphanois bien connu. En défense, Benalouane, Fichot, Florentin Pogba et Lamine Diatta, selon les internautes. Ouais. Au milieu, Aucœur, Baudry, Pajot. Et devant, une triplette composée de Matsui, Mazur et Kuzba. Voilà, il y a quelques joueurs que j'avais oubliés, je dois dire.
Ouais, il y a trop d'inconnus.
Mais trop d'inconnus.
Tu sais, il y a les matières à prendre de la pipe connue, quoi.
Sont revenus également assez régulièrement dans l'équipe pipe Nivaldo, ancien défenseur central. Je sais pas si vous souvenez de celui-là. Moi, je pense qu'il fallait absolument mettre le gardien au passeport grec. Vous vous souvenez de celui-là, le gardien qui est le passeport grec?
Oui, le faux passeport, l'histoire du faux passeport.
Levitsky.
Ah oui.
C'était
oui,
l'époque Alex Alozio. Uh-huh. Donc voilà, dans l'équipe pipe, on m'a mis aussi Gigliotti, Grax, c'est pas si vieux. Uh-huh. Donc dans cette équipe pipe, ou encore Lamine Sacco, rappelez-vous, cet attaquant de Saint-Etienne, qui n'avait pas fait des étincelles. Mais après cette première équipe pipe, il peut y en avoir une autre, je vous demande d'accueillir, messieurs, dames, comme il se doit.
Le capitaine de l'équipe type?
Peut-être le capitaine de l'équipe type.
Ouais, qui ça va être?
On s'est dit aujourd'hui, on peut pas faire l'équipe de rêve de l'histoire de la Saint-Etienne sans appeler qui, messieurs dames?
Bah oui.
Capitaine Larquet.
Ah ouais.
Jean-Michel, bonsoir.
Bonsoir les artistes.
Salut Jean-Michel. Salut,
ah bah ça fait plaisir, dis donc.
Oui.
Ça va? Ça se passe bien, la retraite?
Oui, très calmement, mais tout va bien. Mon petit Gilbert, je t'écoute attentivement, j'écoute tous les clowns, mais ça va, ça m'amuse toujours autant, vous ne faites pas de soucis.
Alors, tu nous as aussi préparé ton équipe type, et j'aimerais que tu nous la livres, on va la découvrir sur RMC Sport News, parce que qui est mieux placé que toi, évidemment, pour déterminer l'équipe type de l'histoire des Verts?
Bon, ça vous étonnera pas si j'ai pas mis Diony, Bengue, Coloma. Hein.
Ni ton ami Soderlund.
Ni Soderlund, voilà. Non, depuis que j'ai connu, j'ai mis Ivan dans les buts.
Turkovic.
La défense centrale, j'ai pas trouvé mieux que Lopez Piazza, je pense que c'était pas mal.
Ouais, c'était pas mal, ouais.
J'ai pris Baptiston dans l'équipe de 82 parce que, c'était un joueur qui pouvait jouer arrière latéral ou en défense centrale.
Il démarre comme arrière latéral sa carrière, après il passe dans l'axe.
Effectivement, quand il était du côté du FC Metz. Et dans les latéraux, j'ai hésité parce qu'il y a un garçon qui avait apporté beaucoup, mais qui est pas très connu et qui s'appelle Djurkovic. J'ai gardé Doudou Janvion.
Et t'as fait passer Janvion à gauche alors?
J'ai fait passer Janvion à gauche, oui.
T'as un peu triché là quand même, parce que c'est un arrière droit quand même.
Ouais, tu sais, je suis plus à un arrière près, moi, maintenant. Hein.
Okay.
Le milieu de terrain, c'est un petit peu offensif. Le numéro 6, celui qui était devant la défense, j'ai pris Batné.
Normal, ouais, évidemment.
Ouais. Platini McLoufi, ça vous dit?
Non, ça me dit pas, parce que je veux bien que tu aies fait un excès d'humilité, mais tu es obligé d'être dans cette équipe.
Non, mais oui, attends, c'est comme... Oui, je sais qu'aujourd'hui, la modestie ne court pas les rues, mais il faut pas déconner non plus, quand même. Non. Platini avec Loufi, parce que, d'abord, Rachid, c'est vieux, mais c'était mon idole. Et devant, Johnny Rep. Ouais. Johnny Rep à droite.
Beretta.
Salif Keita et Georges Beretta à gauche.
Alors, t'as mélangé un peu des époques, mais alors, je suis désolé, mais j'insiste, mais... Je pense que t'as plus marqué l'histoire de Saint-Etienne que Platini. Et que Platini, même s'il y a des moments importants à Saint-Etienne, parce qu'il a été champion et son seul titre de champion de France, c'est avec les Verts. Au niveau européen, il y a ce fameux match à Hambourg, mais il n'y a pas d'autres épisodes. Donc, je suis désolé, mais si tu dois en enlever un et Platini, oui, pour moi, le plus grand joueur français de tous les temps.
Donc, Jean-Michel, nous te forçons à te mettre dans l'équipe.
Je le mets dans l'équipe de la Juve et de tous les temps.
Vous n'avez pas découvert Jean-Michel.
Mais non, mais je veux dire, t'as gagné, t'as été 7 fois champion et tu fais une finale de Coupe d'Europe. Si t'es pas dans l'équipe, on va pas débattre Milan. On va pas débattre Milan, c'est évident. Alors en revanche, après j'ai une question, c'est comment tu peux te... Alors Salif Keïta, oui, il faut savoir qui c'est, mais c'est dur de pas mettre Hervé Revelli qui est quand même un énorme buteur.
Oui, mais enfin, même à mon époque, on jouait à 11. Donc,
c'est vrai.
Je sais pas comment je pouvais le faire. Donc.
Mais Salif Keïta était-il vraiment un neuf?
Il pouvait jouer partout. Hein,
bah, tu veux pas le mettre sur le côté, t'enlèves Johnny Rep et tu mets Hervé Revelli en pointe?
Ouais, si tu veux, oui, c'est pas mal aussi. Oui. Mais une fois, tiens, justement, c'était à Metz, Salif Keïta a joué à gauche face à ailier gauche face à un Zonka qui se prénommait Georges, je crois. Quelque chose comme ça. Il n'a pas touché une balle. Il n'a pas touché une bille. Tellement, il avait peur, il avait mis les protège-tibias devant et les protège-mollets derrière.
Il fallait pas l'intimider, il n'y arrivait pas, Salif Keïta.
Non. Il était pas très courageux, surtout à l'extérieur.
Est-ce que tu as pensez à un instant à mettre ou pas Loïc Perrin.
Contre Lopez et Piazza.
Non, par rapport à Christian Lopez et à Osvaldo, non, j'ai pas hésité une seconde.
Non, c'est normal.
Mais il y a quand même un truc étonnant avec Saint-Etienne, Jean-Michel, on en parlait tout à l'heure, c'est que c'est une équipe qui est assez facile à faire par rapport à d'autres clubs qui a connu plusieurs, on va dire, périodes fastes. Là, Saint-Etienne, il y a, on va dire, une décennie extraordinaire où finalement il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent naturellement dans l'équipe, quoi.
Bah, il y avait l'ossature, c'est l'ossature de l'équipe de France qui a refilé un petit coup de fouet au football français, quoi. Après, bon.
Pour moi, c'était l'équipe de 76 et bon. Il fallait trouver de la place pour Mekloufi et Keïta. Mais sinon, voilà. c'était cette équipe-là.
C'était aussi parce que ils ont un titre avec Christophe Galtier qui est la Coupe de la Ligue. Je pensais mettre Brandao, mais j'ai pas trouvé de place pour Brandao.
Alors, je vais quand même, Jean-Michel, te livrer l'équipe type des internautes. Comme ça, tu nous diras ce que t'en penses.
Voilà, tu vas
Kurkovic dans les buts. Défense centrale, Piazza, Perrin.
Oh là là.
Latéraux, Farizon, Janvion. Le milieu de terrain, Battenet, Platini, Larquet.
Ouais.
Et devant, Keïta, Revelli, Rocheteau.
Ouais, c'est ça. À part Perrin, parce que tu peux pas.
On aurait gagné des matchs.
T'as pas mis l'ange vert en plus, attends.
Jean-Michel n'a pas mis Rocheteau, effectivement.
Oui. En joueur symbole, il pouvait effectivement y être aussi.
Bon, alors finalement, quel est le joueur le plus récent de l'équipe?
C'est la raison pour laquelle ma sélection ou mon équipe ne vous plaît pas. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'entraîneur, j'ai été bidon, je vous l'ai
dit. Par contre, il y a quand même un truc, c'est qu'il y a, finalement, il n'y a aucun joueur de ces 15-20 dernières années.
Il n'y a pas un joueur post-année 80.
Ah, mais c'est dur.
Comment tu veux quand t'as été aussi fort à une période et que derrière t'as pas reproduit ça. Il n'y a aucun joueur post-année 80.
Oui, Jean-Michel?
Non, je crois que les derniers, Johnny Rep, Platini, tout ça, c'est 82-83.
Platini s'en va en 80. Platini s'en va en 82.
Ça commence à dater.
Il s'en va en 82. Platini et le dernier titre
maillot super télé.
C'est 81 le dernier titre de Saint-Etienne.
Absolument.
Voilà.
Et la paire de Saint-Etienne, c'est 82.
On aurait pu mettre la panthère Gomis aussi.
Oui, si. Comment ça va, Jérôme?
Mais ça va, en pleine forme.
Oui.
T'écoutes Jérôme un peu, ça va? Il a pas trop changé,
Oui, Jérôme, non, fidèle à lui-même.
C'est ce qui fait sa force.
Si vous lui demandez l'équipe type du Paris Saint-Germain de Monaco de Troyes, il est dans toutes les équipes.
Ah ben, c'est logique.
On n'a pas fait le PSG Monaco, on l'a fait. Il y a eu débat sur Monaco.
Je précise quand même, Jean-Michel, qu'on l'a même mis dans l'équipe type d'Ankara Gucci. Mais là, c'était mérité, quand même. Bon, Jean-Michel, merci en tout cas, c'était sympa de t'avoir.
En tout cas, je viendrai vous rendre visite dans vos nouveaux locaux, il paraît qu'ils sont super.
Ah, bah, quand tu veux, tu sais que t'es le bienvenu. Il y a toujours un badge qui t'attend à l'entrée, t'inquiète pas.
Bonne nuit, messieurs, bonne nuit.
Salut, Jean-Michel.
Salut, capitaine, merci beaucoup.
Bonne soirée. L'équipe des Verts, sans polémique.
Alors attends.
Super facile cette équipe.
Amaury est là. Amaury est plus jeune que le capitaine Larquet. Oui, Amaury est un jeune supporter des Verts. Salut Amaury.
Salut à tous.
Salut Amaury.
Amaury, t'as entendu l'équipe type du capitaine Larquet, l'équipe type des internautes là de l'After. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que t'arrives au même résultat?
Non mais les équipes sont très bien. Après sans froisser Daniel, on nous reproche souvent de vivre dans le passé sur les réseaux. Donc moi je vais tenter de faire une équipe récente, on va dire, pour que les gens connaissent les joueurs. Et
tu veux tenter l'équipe type à partir
toi,
de.
Tu proposes une alternative.
Une alternative, exactement.
Ah oui,
sans oublier les autres, hein, bien sûr.
Mm. Alors bah vas-y, on t'écoute.
Donc en gardien, bah Ruffier évidemment.
Oui.
Arrière droit, Patrice Carteron. On n'en a pas eu beaucoup de bons, celui-là.
D'accord, vas-y, ça passe.
Perrin, Camara dans l'axe.
Zoumana Camara.
Ouais, ouais.
Goulam à gauche.
Ouais.
Doublette au milieu, Matuidi et Zokora.
Mm-hmm.
Il avait fait une grosse saison avant d'aller à Tottenham. Côté droit, Feinduno. À gauche, Payet. Et une attaque au Aubameyang, Alex.
Mm. Ah, c'est pas mal.
Donc tu mets pas Gomis?
Bah Gomis remplaçant. Gomis remplaçant Aubameyang Alex, ça reste
quand même
deux grosses pointures.
Non mais tu vois, c'est intéressant ton alternative. Et ça fait effectivement, ça peut rappeler qu'il y a eu des bons joueurs aussi dans une époque plus récente à Saint-Etienne. Et parce que sur le coup, quand on fait le jeu équipe type, bah tout est gars là, que pourtant on connaît par cœur, bah j'y avais même pas pensé quasi.
Oui, après c'est compliqué.
Immédiatement, on est ramené au passé, immédiatement on est ramené des années avant. Quoi.
Et Willy Sagnol?
Ouais, mais c'est encore trop loin, Willy Sagnol.
Bah, trop loin.
Mais c'est vrai qu'il est oublié, on peut le prendre.
C'est pas 20 ans avant Carteron.
Ouais, c'est les années 90, quoi.
Non. Bah, on prend, allez, on le met dans l'équipe.
Bon.
À la place de Carteron.
Très bien. Et non, je vais dire Lionel Potillon, mais non, tu voulais pas le mettre. Bon,
l'équipe pipe, par contre, on en a.
Attends, t'en as une?
Ouais, bah gardien de but planté. Mmh. Ah, si vous vous souvenez, il était sûr. À Caen.
Ça, c'était un excellent nom pour un gardien de but.
Ouais.
Arrière droit, on avait Lamine Diatta.
Ouais. Mmh.
Dans l'axe, on avait Pogba et Paul Bass qui arrivaient. Il s'était cassé une jambe, il s'est cassé l'autre. Il a fait aucun match avec nous.
Ah bah ouais, mais non, tu peux pas le mettre, le pauvre. Et s'il est blessé, tu peux pas le mettre.
Et lui, et Paul Bass, il est la chouline quand même.
Ouais, il se fait en blessé.
Non, tu peux pas. L'histoire de Bordeaux là,
c'est dingue.
Le mec, il est viré parce qu'il se fait carrer par l'entraîneur. L'entraîneur se fait virer dans la journée. Ouais. Le mec est transféré. Ouais. C'est pas avoir la chouline ça.
Ouais.
Bref.
On a Mbeng à gauche qui est vraiment une catastrophe. Au milieu, Hautecoeur et Endo.
Giran Endo,
qui joue à Sochaux.
Oui. Mmh. C'est la grande finesse.
Il y a Moussilou qui va nous dépanner sur l'aile gauche. Miralas à droite, parce que ça a été au final un gros flop alors qu'il arrivait comme une pointure.
Ouais.
Et puis s'ils arrivent à centrer, ben, ça sera soit pour la tête de Sanogo, soit Gigliotti qui nous prend une retournée.
Ouais, très très bien. J'aime beaucoup cette équipe pipe. Impeccable.
Sunderland, t'en voulais pas?
Bah, il a mis un but dans le derby, donc ça suffit pour nous.
Très bien. Excellente réponse.
Ok, oui, c'est vrai, c'est une belle réponse. Ouais.
Amaury, merci, t'as été brillant.
Ouais, très bien, très bien.
Allez, ciao les gars.
Bravo. Salut Amaury, à très bientôt.
Tu vas avoir un t-shirt de vous, là?
Ah bah ouais, là, t'as été tellement brillant qu'on va t'envoyer un t-shirt, tiens.
Allez, parfait.
C'est cadeau, salut à toi.
Très très bien, l'équipe merci. Alternative.
Oui, mais l'équipe alternative, Daniel, elle va là pour Saint-Etienne. Et pour certains clubs, tu peux pas.
Oui.
Aujourd'hui, pour le PSG, par exemple, comment tu fais une équipe alternative?
Non, parce qu'il faudra faire
y a différentes époques. Voilà.
Plus là, dans B. Saint-Etienne, c'est parce que c'est tellement marqué un moment fort et le reste que voilà. Oui, oui.
Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'à l'époque, quand Julien Cazard était parmi nous, on avait une chanson concernant Mat Moussilou.
Quand l'écran s'allume, je le cherche vainement. Même qui dort la mignon n'a pas voulu. A fait rêver le vélodrome, le stade du Rennes, le tibia d'or 2006 a disparu. Goodbye, Moussilou.
Voilà, c'était notre époque. Et c'était bon. J'ai une petite info juste pour conclure que je vous ai pas donné. Vous dire que Fekir sera de retour le 3 novembre. Hein. Il devrait être nouvellement opérationnel pour la réception de Bordeaux le 3 novembre.
Ah bah, c'est grosse indisponibilité.
Grosse entorse externe.
Ça veut dire qu'il fait pas match de Ligue des Champions. Il en rate.
Ouais. Ouais, il rate le prochain là contre Fenham. Il sera pas là.
Ah oui.
Voilà. On fait quoi la prochaine équipe? C'est quoi? Ce sera la semaine prochaine.
On a Bah, je sais pas, on n'a pas fait Lyon.
Alors, jeudi prochain, c'est Nantes. C'est prévu, mais il faut en prévoir une pour mercredi.
Bah, on n'a pas fait
Lyon. C'est Nantes.
C'est Nantes jeudi prochain, parce qu'on a un invité nantais, donc on se rendra avec lui.
On n'a pas fait Lyon.
On n'a pas fait Lyon. Non. Dans l'oreillette, on me dit on n'a qu'à faire Rennes. Ça, c'est le Rennais qui s'excite.
D'accord.
On peut faire. Bon,
alors, Rennes, ça peut éventuellement être le seul club où on doit pouvoir faire une sorte de décalco entre équipe type et équipe pipe, quasi.
Eh bah, tentons ça mercredi, tiens. Tentons ça mercredi. Mercredi Rennes et jeudi Nantes. Voilà. Allez. Ce sera la semaine prochaine. Merci les gars, bonne soirée. Demain soir, on sera à la fin du match France-Islande, évidemment, aux alentours de 22h50 demain soir dans l'after. Bonne nuit à tous.
RMC Football Show, l'after foot.